Bienvenue dans Nos aînés connectés, une série d'émissions radiophoniques exclusives qui vise à démocratiser la littératie numérique à destination des aînés et se penche sur les dangers liés à la cybercriminalité. Un programme rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Nathalie Salmeron au micro pour un nouvel épisode de notre série d'émissions Nos aînés connectés. Un projet d'émission qui, je vous le rappelle, est financé en partie par le gouvernement du Canada, par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Alors dans Nos aînés connectés, comme vous avez déjà pu le découvrir au travers de nos premiers épisodes déjà diffusés sur les ondes de Choc FM 105.1, mais aussi présents en ligne sur notre site chocfm.ca et également en ligne sur plusieurs plateformes de streaming comme Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, TuneIn, Heart Radio ou encore Google Podcast, nous essayons de mettre en lumière toutes les arnaques liées à la cybercriminalité et ainsi à sensibiliser nos auditeurs face aux mauvais traitements envers les aînés en ligne, en particulier en matière d'exploitation financière et émotionnelle. Et nous voulons également, à travers ce projet, favoriser l'inclusion sociale et réduire aussi l'isolement de ces populations particulièrement touchées par les cybercriminalités en tout genre, et ce d'autant plus depuis la pandémie de Covid-19. Alors dans ce nouvel épisode de Nos aînés connectés aujourd'hui, nous allons parler de cybersécurité avec notamment Eric Ngabonziza, cofondateur de l'entreprise Africa CyberSec. Ce dernier va donc revenir sur les arnaques les plus fréquentes, les bonnes pratiques à adopter et également quelques anecdotes qu'il a pu voir au cours de sa carrière. Alors j'espère que cet épisode va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus en matière de cybersécurité. Bon épisode à toutes et à tous et j'espère que ce dernier va donc vous offrir l'occasion de vous sentir plus rassuré face à ces situations parfois compliquées à gérer, surtout lorsqu'on n'est pas suffisamment armé et que vous, les auditeurs de Choc FM 105.1, vous allez tous pouvoir devenir de réels experts 2.0.
Nos aînés connectés, le point de vue de l'expert.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos aînés connectés. Ici Nathalie Salmeron au micro pour ce nouvel épisode où on va s'intéresser aux cybersécurités justement. Et avec moi, j'ai la chance d'avoir un expert en la matière, Eric Ngabonziza. Bonjour Eric, comment ça va?
Oui, bonjour Nathalie, ça va très bien, merci.
Alors justement, une question la cybersécurité, c'est clairement ton domaine. Est-ce que justement tu peux nous préciser, te présenter et nous préciser un petit peu justement, quelle est ton expertise à toi sur le sujet?
Oui, merci beaucoup. Donc, je suis, comme je viens de le dire, je suis Eric Ngabonziza. Je parle 5 langues, incluant le français et l'anglais. Et comme nous sommes au Canada, donc nous sommes dans un pays bilingue, français et anglais. Et je suis en matière de... J'ai l'expérience de 30 ans en informatique. Donc, où j'ai commencé en tant que programmeur. Je me suis converti en réseau télécom. Et après... j'ai abordé la cybersécurité et c'est ça que je fais. Donc, la cybersécurité, c'est quoi? C'est la sécurité de nos données, toutes nos données que nous avons en ligne.
Justement, la cybersécurité, ça correspond aussi aux cyberattaques. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est en fait une cyberattaque? Comment on reconnaît ça?
D'abord, il faut comprendre d'abord la cybersécurité pour qu'on comprenne c'est quoi la cybersécurité. Donc, c'est la sécurité du cyberespace. Et c'est quoi le cyberespace? Le cyberespace, c'est aujourd'hui toute personne qui a un cellulaire smartphone, c'est-à-dire avec son cellulaire, on peut aller sur Internet. Aujourd'hui, il y a des voitures qui sont connectées sur Internet. Aujourd'hui, nous avons même les frigos, les caméras qui sont connectées tout le temps sur Internet. Donc, tous ces appareils ou bien tous ces outils ou bien tous ces éléments qui sont connectés sur Internet, c'est ça que nous appelons cyberespace. Donc, la cybersécurité, c'est la sécurité de cet espace. Et maintenant, la cyberattaque, c'est quoi? C'est le fait d'attaquer ces éléments en utilisant l'Internet. C'est ça, la cyberattaque.
Mais c'est quoi exactement le bénéfice d'une personne qui va attaquer quelqu'un? Parce qu'au final, on a toujours l'impression qu'on n'est personne sur Terre. En réalité, on n'est pas des grandes stars, on n'est pas des grandes célébrités. Il n'y a pas de rançon particulière à espérer. Pourtant, on a souvent, quand on lit les journaux, quand on regarde les médias, on se rend compte qu'au final, c'est souvent des gens lambda
ils se font arnaquer. Quel est l'intérêt réel des cybercriminels, parce que je vais les appeler comme ça, quel est l'intérêt pour les cybercriminels, entre guillemets, de s'attaquer à des personnes lambda et pas à des grandes institutions ou à des présidents ou à des personnes qui ont peut-être plus à leur apporter financièrement ou d'un point de vue donné, en fait?
Effectivement, même si je n'ai pas assez d'argent dans mon compte, ça ne veut pas dire que je ne suis pas vulnérable. Je suis vraiment vulnérable parce que ce criminel viendra chercher mes informations sensibles. C'est quoi information sensible à moi? Parce que derrière, il y a toujours une valeur. Mes informations sensibles, c'est-à-dire mon nom, mon prénom, ma date de naissance, avec ces informations, ce criminel peut les utiliser peut-être pour aller demander un crédit, par exemple. Et nous sommes ici au Canada. Un jour, peut-être que vous allez vouloir, je vais vouloir peut-être chercher un crédit. On me dit, il faut d'abord payer ce crédit que moi, je n'ai jamais appliqué. Et pourtant, c'est un criminel qui est venu, qui a pu voler mes informations. Et avec mes informations, ce criminel est parti appliquer un crédit. Ça, c'est l'étape, exemple numéro un. Ou bien, ce criminel vole mes informations, va les vendre au marché noir. C'est pour vous dire que, en fait, il y a toujours une valeur derrière. Même si je n'avais pas l'argent dans mon compte bancaire, mais mes informations ont une valeur. C'est pour ça, nous recommandons et nous sensibilisons toujours les gens de garder jalousement leurs informations. Ne divulguez vos informations, ne donnez jamais vos informations à n'importe qui.
C'est vrai qu'en plus, maintenant, on a de plus en plus cette envie de profiter de la technologie et de ce qu'elle nous offre. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui vont mettre, au lieu d'imprimer les photos, par exemple, comme on faisait il y a quelques années, on prenait des photos de famille, on les imprimait, on les gardait dans un album et c'était juste privé. Puis on les montrait dans des réunions de famille, quand il y avait des amis qui passaient à la maison. Là, maintenant, on prend des photos avec son téléphone et puis elles partent dans le cloud, dans ces fameux nuages, un petit peu, comme on dit, où genre, on a toutes nos informations qui sont gardées à ces endroits. Est-ce que justement, c'est dangereux d'utiliser ces clouds ou alors ça reste un moyen sûr, mais il faut être sûr encore plus d'être bien protégé et de bien protéger ces informations?
Il n'est pas dangereux d'utiliser le cloud. Par contre, chaque évolution, quand chaque évolution se présente, il faut aussi, avec un jugement, oui, effectivement, il faut renforcer nos sécurités nous-mêmes, c'est-à-dire savoir où est-ce que nous mettons nos informations. Est-ce qu'il y a une sécurité valable ou bien une sécurité, comment dirais-je, il y a assez de sécurité. Je vous donne un exemple banal. À la maison, est-ce que avant de sortir de la maison, on va laisser la porte d'entrée entrouverte? Je ne pense pas. Donc, il faut quand même, ne fût-ce que fermer la porte et puis utiliser la clé. Parce que on ne sait jamais. De la même manière aussi, aujourd'hui, quand nous déposons nos informations sur le cloud, oui, ayons quand même d'abord s'informer. Est-ce que ce cloud est sécurisé? Quelles sont les revues des gens qui ont utilisé ce cloud? Essayez d'avoir des informations pour voir si là où vous mettez vos informations, c'est sécurisé. Et aussi, ce que nous recommandons aux gens, si je donne mes informations sur le cloud, que mes informations ne soit pas seulement au cloud. Il faut aussi avoir un autre endroit. Au cas où, peut-être il y a un problème ici, au moins j'ai quand même une donnée ou bien une copie de mes informations que je peux retirer quelque part ailleurs.
Comme par exemple l'utilisation d'un disque dur ou d'une simple clé USB pour garder ça plutôt de façon personnelle et à la maison bien rangé dans un endroit.
Oui, c'est comme aujourd'hui quand vous avez une voiture, vous avez toujours un pneu de réserve. Ça ne veut pas dire que vous avez ce pneu de réserve lorsque vous avez une crevaison. Non, vous avez toujours un pneu de réserve au cas où vous avez une crevaison et en même temps vous remplacez le pneu avant que ça peut vous aider à arriver chez le mécanicien pour qu'il puisse réparer votre pneu. C'est la même chose aussi.
Alors, forcément, plus les années passent, plus on se rend compte qu'il y a des arnaques XY qui sortent un petit peu de nulle part. Alors, elles sortent pas de nulle part, et puis je pense qu'au final, c'est peut-être des arnaques qui sont déjà là depuis quelques temps. C'est juste que ça prend du temps pour qu'elles soient mises au grand jour, un petit peu à la vue de tout le monde, parce que il y a souvent ce truc aussi de quand on se fait arnaquer, bah, on a un peu honte. On va pas forcément en parler à tout le monde. On va en parler peut-être à son ami, à la personne qui partage sa vie, parce qu'elle partage aussi peut-être ses comptes en banque, et que du coup, on se retrouve un peu face à une grosse difficulté financière, par exemple. Mais on va pas forcément en parler à la police, on va pas forcément le reporter au centre anti-fraude du Canada, on va pas forcément appeler sa banque ou la police. Du coup, je trouve que des fois, ça prend un peu de temps à ce que on se rende compte réellement des arnaques qui sont à la mode, entre guillemets. Mais pourtant, il y en a beaucoup et on en voit beaucoup. Mais selon toi, Eric, que ce serait quoi les arnaques les plus courantes, justement, pour que les gens soient un petit peu plus aux aguets d'éventuels emails ou SMS qu'ils peuvent recevoir?
Les arnaques ont été toujours existées, mais pourquoi aujourd'hui on les voit souvent? C'est parce que on a eu beaucoup de monde maintenant qui sont partis depuis la COVID. Tout le monde, on a eu beaucoup de gens qui se sont connectés sur Internet. Donc, comme il y a eu une augmentation des gens qui se sont connectés, donc les arnaques ont augmenté. Et de voir ce que même dans nos entourages, on a commencé maintenant à remarquer qu'il y a des gens qui se font arnaquer. Avant, il y en avait des gens qui se faisaient arnaquer, mais comme il n'y avait pas peut-être autour de nous, les gens qui étaient affectés. C'est pour ça qu'on avait l'impression que ça n'a jamais existé avant, mais ça existait et ça a continué à exister. Donc, on nous a tout vraiment proche. On remarque qu'il y a des gens qui se font arnaquer. On a l'impression que ça a augmenté. Maintenant, pour répondre à la question, quelles sont les arnaques ou bien quelle est l'attaque la plus vraiment vue? C'est l'attaque qu'on peut appeler phishing. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a trois. Il y a phishing, smishing et puis vishing. Je vais les expliquer. Phishing, c'est lorsque je me dit que toute personne qui utilise un email a déjà reçu un email qui lui demande peut-être c'est Amazon, quelqu'un qui prétend être Amazon, que peut-être nous vous avons pris beaucoup d'argent qu'il fallait vous prendre, mais pour nous, pour que on puisse vous rembourser l'argent, cliquez par exemple sur ce link et vous remplissez vos informations et comme ça nous saurons comment vous rembourser. Ces genres d'attaque, beaucoup de gens tombent dans ce piège. Pourquoi? Parce que peut-être ils n'ont pas fait attention de voir la source, d'où est venu ce message. Parce que souvent, si on fait attention, on regarde d'où est venu le message, on peut savoir que ce n'est pas vraiment Amazon ou bien ce n'est pas vraiment ma banque. Donc, cette attaque, c'est l'attaque la plus, comment dire, la plus populaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dessus. L'autre, c'est smishing. Smishing, c'est SMS. Ce sont les textes messages que nous recevons sur notre téléphone. Et lorsque nous recevons un texte message qui va dire, par exemple, vous avez gagné un prix, un grand lot, mais pour que nous puissions acheminer votre prix, cliquez ici. Et remplissez vos informations, c'est-à-dire votre nom, même l'adresse. Ça aussi, c'est une attaque, mais souvent, c'est pas très populaire comme phishing. Phishing, ça vient de voice, c'est-à-dire quelqu'un qui prétend par exemple être votre gestionnaire de compte vous appelle et maintenant vous prenez et comme vous savez une banque quand vous parlez avec la banque doit normalement vérifier si nous parlons avec la bonne personne. Donc cette personne qui prétend être votre gestionnaire de banque de compte vous demande à vous présenter pour que il puisse vous vérifier avant de vous dire pourquoi il a appelé. Ça aussi il y a beaucoup de gens qui tombent dedans, mais normalement ce sont les trois attaques qui sont les plus réputé. Mais pour conclure, pour donner une recommandation, lorsque vous recevez cet email, ou bien lorsque vous recevez ce SMS, ou bien lorsque vous recevez cet appel, ne donnez jamais vos informations. Mais vous pouvez revérifier, appeler si c'est la banque, si c'est un service qui prétend vous appeler, pour voir si effectivement ils ont cherché à vous contacter. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous appelez, vous allez avoir une réponse négative. On dit que non, c'était pas nous. Donc, c'est ce que je peux dire. Et aujourd'hui, des ransomware attaquent. Lorsqu'on attaque une compagnie, on leur demande des rançons. 91% de ces attaques ont commencé comme phishing. C'est pour ça que je dis que phishing, c'est très dangereux.
Il y a souvent aussi, et je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, Eric, le dénominateur un peu commun de ces phishing, vishing ou smishing, c'est souvent cette tendance à l'urgence. Oh, j'ai besoin de vos informations tout de suite parce qu'il y a un problème sur votre compte en banque. Oh, c'est Amazon, je reprends un peu tes exemples. Oh, c'est Amazon, on a besoin de vos informations parce qu'on vous a prélevé trop ou parce que votre colis est bloqué. Ou, je sais pas, votre compte Netflix, c'est un message, moi, que j'ai reçu il y a pas très longtemps. En plus, ça m'a fait rire parce que je pense que je suis une des rares personnes à Toronto à ne pas avoir Netflix. Et on m'avait dit que il fallait absolument que je réponde à ce SMS en cliquant sur le lien parce que mon compte était bloqué. Le dénominateur
Voilà.
commun, c'est toujours cette sensation un petit peu d'urgence. Est-ce que justement, c'est aussi pour pousser les gens à se dire, oh là 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 là, il faut absolument que je réponde tout de suite parce que sinon peut-être que le fait de ma non-réponse va engendrer un effet boule de neige et peut-être que ça va être, la situation va être pire. Est-ce que justement les cybercriminels, ils jouent un petit peu sur ce sentiment de peur, de faire peur aux gens, de les mettre dans l'urgence, face un peu au mur pour se dire, bah, il faut réagir tout de suite, madame, monsieur, parce que sinon la situation va empirer.
Effectivement, c'est ça, c'est psychologique. Il joue sur la psychologie des gens et il vous presse. Actuellement, nous sommes dans la période où nous devons faire nos taxes, n'est-ce pas? Et il faut la date limite. Vous allez voir, et c'est souvent cette période où les phishing des taxes. beaucoup de gens, et surtout, malheureusement, ce sont nos aînés qui sont les premières victimes. Et donc, on appelle, je vous appelle de la part de CRA, c'est-à-dire
L'Arc
la
du
compagnie
Canada.
là, voilà. Et nous avons vu que vous avez peut-être, vous n'avez pas, comment dirais-je, vous n'avez pas envoyé tous les documents, et on met la pression, et si vous ne faites pas ça, vous nous devez autant, on va envoyer la police chez vous. Alors que vous savez que ça n'existe jamais, jamais envoyé. Et donc, si c'est une personne qui est vulnérable avec la peur, comme c'est psychologique, la personne peut donner l'argent. Donc, c'est comme ça, on joue sur la psychologie des gens, on met la pression, on dit, si vous ne faites pas dans 3 jours, par exemple, votre compte sera annulé. Vous dites, vous vous sentez que, ah, si je ne fais pas ça et que mon compte soit annulé, ah, ce sera ma faute. Donc, si vous êtes vulnérable, vraiment, vous êtes faible, parce que la vulnérabilité, c'est la faiblesse. Et si psychologiquement, vous êtes faible, vous risquez de vous y donner facilement.
Faible
Ouais.
ou peut-être mal informé aussi, parce que justement, on en
Ouais.
vient un petit peu au cœur de notre émission, les populations aînées. Et c'est vrai que les populations aînées, on se rend compte que, alors, je fais pas de généralité parce qu'il y a aussi pas mal de personnes aînées qui, justement, ont entendu tellement d'histoires, qui se sont instruites, qui se sont formées, justement, pour comprendre un petit peu les pièges qui peuvent arriver sur Internet. Mais souvent, ça arrive quand même que certaines personnes aînées, comprennent pas un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe un petit peu sur la toile et qui, par gentillesse, vont écouter la personne au téléphone et dire, oh, d'accord, il y a un problème. Alors que la personne, ça fait 100 ans qu'elle fait ses taxes. Elle sait comment ça fonctionne. Elle en a vu des vertes et des pas mûres tout au long de ces années. Et là, spécifiquement, cette année, on l'appelle parce qu'il manque quelque chose. Donc, la personne, au lieu de se dire, il y a quelque chose de bizarre, elle va, elle, se mettre en se remettre en question, elle va, elle, culpabiliser. Et du coup, peut-être que c'est aussi des fois le manque d'informations, en fait, justement, d'explications, peut-être, qui font que les personnes aînées, elles vont plutôt tomber dans le panneau, peut-être plus facilement que les autres, non?
Oui, effectivement, par exemple, Nathalie, ce que tu fais, par exemple, ça, c'est une bonne chose, la sensibilisation. Parce que la sensibilisation va aider nos aînés, même nous-mêmes, à savoir que ces choses existent, ces pratiques existent. Lorsque nos aînés sont informés et sensibilisés que ces pratiques existent, la prochaine fois que cet aîné va recevoir un tel appel ou bien un tel message ou bien un tel SMS, comme cet aîné a été sensibilisé, va se poser plusieurs questions avant de répondre. Donc, c'est pour ça que je dis que le travail que tu fais, c'est un grand travail qu'il faut continuer à sensibiliser notre population. Notamment nos aînés et les jeunes, parce que ce sont les premiers qui sont les plus vulnérables aussi.
Justement, pourquoi les à contrario, tu dis les plus âgés et les plus jeunes. Alors moi, de mon point de vue, je dirais parce que les personnes âgées, c'est peut-être celles qui ont moins vécu avec Internet tout au long de leur vie et qui ont dû apprendre un petit peu sur le tard. Et au contraire, les jeunes, parce qu'ils sont tout le temps tous connectés, et on dirait que le téléphone, c'est le prolongement de leur main. Mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses? Et surtout, pourquoi on dirait que les cyberattaques, c'est souvent très visé sur les personnes âgées, à croire qu'ils ont des fichiers avec l'âge des gens.
Oui, et même les jeunes aussi, hein. Les jeunes aussi sont vulnérables. D'abord pour les aînés, c'est parce que les aînés n'ont pas, tu sais, les smartphones, c'est venu il n'y a pas longtemps. Donc, la majorité de nos aînés n'ont pas vraiment eu la grande partie d'utilisation de ces smartphones. C'est maintenant qu'ils commencent à utiliser. Donc, il y a aussi l'expérience qu'il manque et puis aussi la sensibilisation, d'où l'éducation. Maintenant, si je parle pour les jeunes, oui, ils sont nés, les smartphones existaient, ils ont grandi, les smartphones existaient, mais il manque l'éducation, la sensibilisation, de l'utilisation de ces outils. Savoir quoi donner et ce qu'il ne faut pas donner. Eux, ils croient que oui, c'est un outil de communication dont je peux balancer tout ce que je veux. Alors que ce que nous postons aujourd'hui, dans 20 ans, pourra revenir contre nous. Ce que nous faisons aujourd'hui, dans 20 ans, 15 ans, pourra revenir contre nous. Donc, c'est pour ça. Et il faut aussi l'éducation, savoir, oui, c'est un bon outil. C'est comme aujourd'hui, si nous avons une voiture, il y a l'autoroute. Pourquoi on met, par exemple, la limite de vitesse qu'il ne faut pas dépasser 100 km par heure? Pourtant, la voiture peut aller jusqu'à même à 200 km par heure. Mais on a mis cette limite pour dire non, si vous allez au-delà de cette vitesse, vous pouvez être un danger pour vous-même ou bien un danger pour les autres. La même chose aussi pour ces outils que nous utilisons. Les jeunes n'ont pas ces genres de barrières. Et donc, pour eux, ils croient que tout est ouvert. Et à la fin de la journée, ils se font arnaquer. Ou bien, on les vole tout ce qu'ils ont pour aller après se rendre compte que, après 15 ans, 20 ans, ou bien 10 ans, que ce qu'on n'a pas bien fait au moment où on était encore jeune, ça nous retrouve lorsque nous sommes un peu âgés.
Est-ce que la pandémie, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais bon, la pandémie, elle est encore derrière nous, mais enfin, maintenant, grâce à Dieu, c'est terminé. Mais c'est vrai que pendant cette période, bah, on était un petit peu tous à la maison. On n'avait pas l'occasion de sortir pour aller faire ses courses, comme on l'aurait voulu. Donc du coup, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, à cette période-là, tout le monde était vraiment très, très, très branché sur Internet. C'était un petit peu le seul moyen de vivre, entre guillemets, et de garder du lien avec sa famille, avec ses proches, avoir un petit peu de culture aussi, parce qu'on pouvait plus aller au théâtre, on pouvait pas aller au cinéma comme on le voulait. Mais du coup, ça a forcément accentué peut-être un petit peu ce phénomène de cyberattaque. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as pu constater?
Oui, j'ai pu constater ça parce que dès le départ, il y avait manque d'éducation pour nous tous. C'est-à-dire que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes, que ce soit nos aînés. Nous tous, on manquait vraiment d'éducation en général. Et voilà que on se retrouve, on est forcé d'utiliser l'Internet avec manque d'éducation. Bien sûr, la vulnérabilité va augmenter. La vulnérabilité, c'est-à-dire, c'est la faiblesse de se comporter devant cet outil. Donc, comme nous sommes mal éduqués, bon, quand je dis mal éduqués, mal sensibilisés, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Et voilà, on se retrouve devant un outil qui nous expose au public. Dans le public, on ne sait pas qui on rencontre. Il y a les mauvais, des gens qui ont des mauvaises intentions, il y a d'autres qui ont des bonnes intentions. Donc, nous sommes livrés à toutes ces genres de choses. C'est comme ça, les attaques ont augmenté, beaucoup même, beaucoup. Parce que si on voulait acheter les courses, si on voulait faire les courses, on achète en ligne, mais en achetant en ligne, on a mis une carte de crédit en ligne. Est-ce que là, on a mis la carte de crédit? Nous savons comment se sécuriser. Souvent, à l'époque, c'est pas toutes les compagnies qui étaient à jour en matière de sécurité. Et nous aussi, on pouvait donner nos cartes de crédit comme on veut parce que on ne peut pas circuler. Donc, ça nous a arrangé, mais en nous arrangeant, ça pouvait nous créer aussi des problèmes. C'est ce que je peux dire.
Justement, le fait que tout le monde soit à la maison à ce moment-là, est-ce que ça n'a pas justement donné plus de matière aux cybercriminels pour justement collecter le maximum de données et justement après, bah, lancer toutes ces attaques un petit peu à droite à gauche? Parce qu'on a vraiment l'impression que pendant cette période entre, je vais dire, de mars 2020 à peut-être fin 2022, je dirais, pour la grande partie du Covid, on va dire, est-ce que justement il n'y a peut-être pas des cybercriminels qui, dans l'ombre, ont attendu et ont pris le maximum, le maximum, le maximum, pour une fois lancer leur attaque avec le maximum d'informations sur la personne et dire voilà, maintenant ma cocotte ou mon coco, bah j'ai tellement d'informations sur toi que t'es obligé d'écouter et de faire ce que je te dis parce que sinon je balance tout.
Oui, effectivement, aujourd'hui, quand les experts en sécurité prennent du temps pour réfléchir, venir avec des solutions, au même moment, il y a les criminels qui sont en train aussi de développer leur façon d'attaquer. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Et voilà que au moment où tout le monde, avant peut-être ils avaient, bon, c'est un exemple, supposons qu'avant c'était seulement une centaine de personnes qui étaient en ligne. Et d'un coup, voilà que c'est devenu 10 000. Donc, la probabilité pour avoir beaucoup de gens qui seront victimes, elle augmente. C'est comme ça, moi, je peux expliquer ça.
Il y a aussi un truc qu'on entend aussi de plus en plus, c'est les arnaques au sentiment. Alors ça, c'est une arnaque un peu différente de l'arnaque phishing, smishing, vishing qu'on disait tout à l'heure, parce que tout à l'heure sur ces phishing et tout ça, on disait voilà, là c'est un truc très urgent, il faut que tu répondes tout de suite, il faut que tu cliques sur le lien pour qu'on te rembourse, pour qu'on débloque ton compte ou parce que ton colis il est bloqué à la douane. X, Y raison bidon bien sûr, mais voilà, il y a cette sensation un peu d'urgence. Ce qu'on constate au contraire avec les arnaques au sentiment, comme on les appelle, c'est ce travail dans le temps que quelqu'un va t'envoyer un email, ou ça peut être même sur Facebook ou n'importe quelle plateforme où on échange des messages avec des fois des gens qu'on connaît pas forcément. Ça peut même être Instagram ou n'importe quel réseau. Et au final, la personne va commenter une photo, va te faire des compliments, puis elle va commencer à discuter un peu avec toi, puis vos conversations vont commencer à être un peu plus intimes, un peu plus profondes. Et puis il y a comme ce un peu des sentiments qui vont commencer à se créer. Et puis au final, c'est sur le long terme. Et au bout d'un moment, la personne va commencer à te dire, ah, tu sais, en ce moment, je fais face à des soucis financiers ou j'ai perdu quelqu'un. J'aimerais bien que tu puisses m'aider un petit peu. Est-ce que ce serait possible? Et au final, de fil en aiguille, la personne en face, elle tombe dans le panneau parce que bah,
elle se sent attachée à cette personne, quand bien même elle l'a peut-être probablement jamais vue, ou le peu d'images qu'elle a vues, c'était des fausses images, des fausses vidéos, parce qu'on en reviendra après avec les intelligences artificielles capables de faire pas mal de choses maintenant. Mais du coup, contrairement à ces arnaques où il y a ce sentiment de urgence et qu'il faut tout faire tout de suite, les arnaques au sentiment, ça fonctionne un peu différemment. Est-ce que tu peux nous en parler, Eric?
Oui, effectivement, il y a plusieurs genres d'arnaques. Les trois premiers que j'avais dit, c'est maintenant, 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 il faut me donner ça, sinon ton compte est fermé. Il y a d'autres aussi, par exemple, amoureuses, des relations amoureuses. Ça commence d'abord comme une reconnaissance. Et ça existe, hein, ça existe. C'est pas seulement côté amoureuse, même il y a les hackers aussi qui utilisent ce genre de technique. Ils viennent dans votre compagnie, ils observent, on fait la reconnaissance. Quelles sont les habitudes des employés? Quelles sont les habitudes de la compagnie? Et maintenant, au moment où ils sentent que oui, ils ont compris les habitudes, au moment où c'était une relation soi-disant amoureuse, au moment où j'ai compris la faiblesse de la personne qui est devant moi, là, maintenant, je peux placer mon mot pour essayer d'arnaquer parce que je sais que cette personne est déjà tombée et pourra me donner ce que je suis en train de voir. C'est la même chose si, par exemple, un hacker est venu dans une compagnie observer les habitudes ou bien même un exemple dans la vie courante. Un voleur dans le quartier, d'abord regarde à quelle heure Nathalie sort de la maison, à quelle heure elle retourne à la maison. Est-ce que pendant la journée, elle ne vient pas? Ça pourra faire peut-être 2 mois. Ça, c'est la reconnaissance. C'est au moment où, avec ton exemple, on s'est changé, on essaie de se connaître, mais en fait, c'était une connaissance à un seul sens. C'est moi qui essaie de te connaître, mais toi,
Comme un peu de
tu ne...
l'espionnage, en fait.
Voilà l'espionnage. J'essaie de t'espionner et maintenant, la même chose, le voleur a vu après 2 mois que Nathalie sort à 7 heures du matin, revient à 16 heures, pendant la journée, n'est pas là et dans les entourages, il n'y a pas de mouvement. Donc, c'est le moment d'attaquer. C'est la même chose après 2, 3 mois échangés. Même les photos, souvent les photos, ce sont des photos qui sont fausses et des histoires qui sont fausses de moi. Mais toi, tu es sincère. Maintenant, je sais que, ah, j'ai eu maintenant Nathalie. Je vais lui demander, au fait, j'ai des difficultés. C'est la même chose. Donc, il y a plusieurs sortes d'arnaques. Il y a même une autre arnaque que j'ai oublié de citer. Aujourd'hui, quand tu vas au restaurant, souvent, on ne voit plus des menus. On voit des codes
QR
QR.
code.
Oui. Et on dit, scannez le code QR et vous allez accéder sur le site du restaurant et vous allez choisir ce que vous voulez manger. On va dans les rues, on voit souvent des codes QR qui sont postés quelque part et les gens ont tendance à scanner. Mais ce que nous recommandons aux gens, ne scannez pas n'importe qui QR code. Si vous êtes dans un restaurant, oui, là, c'est les gars, c'est le QR code de ce restaurant. Mais vous attendez un bus, vous voyez une affiche, quelque chose, ah, voilà le code QR. Si vous voulez visiter notre site, scannez ce QR code. Mais vous ne savez pas en quel cas sur le QR code, peut-être vous allez sur un site qui est infecté de fichiers malveillants qui vous attaquera, ou bien la personne vous envoie sur un site où vous allez donner vos informations sans le savoir. Donc, ça aussi, il y a plusieurs sortes d'arnaque, ouais.
Justement, je rebondis sur ce que tu dis parce que on a tendance à se dire que quand on est sur son téléphone, on est plus en sécurité que quand on est sur son ordinateur parce que sur son téléphone, c'est pas pareil. Sur le téléphone, on peut pas avoir un virus. Sur son téléphone, on est protégé. Quand on est sur l'ordinateur, bah oui, parce que c'est différent. Bizarrement, on a cette tendance, même moi, des fois, j'ai tendance à penser ça, que c'est pas grave si je vais sur un site un peu bizarre ou que quand je clique sur quelque chose, ça m'ouvre une fenêtre et que je vais pas forcément la fermer tout de suite parce que je suis sur mon téléphone. Et puis, il y avait aussi cette légende pendant très longtemps que quand on utilisait un téléphone Apple, pour citer la marque, on était plus protégé que si on avait un téléphone qui n'était pas Apple parce que les virus, ils n'étaient pas adaptés à Apple. Et donc, on avait toujours cette info, en tout cas pour plein de gens, l'impression qu'on est plus protégé quand on est sur son téléphone. Est-ce que c'est toujours la chose? Est-ce que c'est toujours ça? Est-ce que c'est vrai? Ou peu importe qu'on soit sur un ordinateur ou qu'on soit sur son téléphone, on peut même avoir des virus de la même façon, ça change pas grand-chose.
Les gens qui pensent que en étant sur le cellulaire, c'est mieux sécurisé que l'ordinateur, c'est faux. C'est pas vrai parce que de la même manière que tu peux être attaqué sur ta machine, ton ordinateur, c'est de la même manière que tu peux être attaqué sur le cellulaire. Mais de la même manière que tu protèges ton ordinateur en installant des antivirus, c'est de la même manière, il faut avoir cette habitude aussi d'installer des antivirus sur le cellulaire. Parce que c'est pas la responsabilité du fabricant du cellulaire. Le fabricant du cellulaire lui, il est responsable de mettre à jour son système d'exploitation, pas les antivirus. Le système d'exploitation, c'est le système qui aide à ton téléphone de bien fonctionner, mais ça n'a rien à voir avec les fichiers malveillants. C'est ta responsabilité à 100% d'être à jour pour la protection des fichiers malveillants. De la même manière que ta machine, ton ordinateur, si c'est Macintosh ou bien Windows, le fabricant est responsable du système d'exploitation. Mais ce n'est pas le fabricant qui vient d'en mettre l'antivirus dans ta machine, c'est toi. Donc, les deux cas, il faut avoir les antivirus qui sont à jour. Pourquoi à jour? Souvent, les gens ont tendance à dire que, ah, j'ai installé mon antivirus, ça fait 5 ans et il a expiré. Ah, est-ce que c'est de la même manière aujourd'hui quand nous avons une assurance de voiture? On dit, pourquoi on doit payer une assurance de voiture? Parce que si quelque chose arriverait, au moins on est assuré et la compagnie d'assurance pourra quand même nous aider. Maintenant, si votre antivirus a expiré et que le criminel a pu exploiter le virus, disons, a exploité le fait que ton antivirus a expiré, t'attaque, mais c'est toi, c'est pas la compagnie d'antivirus ou bien le fabricant, c'est toi qui es en train de perdre les documents ou bien les choses qui étaient dans la machine. Donc, il faut toujours mettre à jour le cellulaire et puis la machine de la même manière.
Alors là, on parlait d'antivirus, mais est-ce qu'il y a d'autres façons justement de se protéger en fait, qu'on soit sur son téléphone ou qu'on soit sur son ordinateur? Est-ce qu'il y a justement des choses à mettre en place pour être sûr que au moins on s'assure d'être plutôt protégé?
Oui, il y a aussi, je vais donner le terme, mais je vais expliquer. C'est le VPN. VPN, en fait, ce sont le réseau privé, mais qui est crypté. Crypté, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la communication, toute la communication qui passe à travers ce VPN, c'est chiffré. C'est-à-dire que c'est pas une communication qui est lisible. Donc, c'est chiffré à tous les autres, sauf si moi je t'envoie un message, c'est toi et moi qui pourront lire son message. Là, au moins, si quelqu'un pourrait peut-être intercepter son message, ne pourra rien comprendre parce que nous utilisons le VPN. Le VPN, donc, crypte, et comme toi et moi, nous avons une clé que nous connaissons. Donc, j'utilise la clé pour crypter et tu utilises la clé pour décrypter, pour que tu puisses lire. Maintenant, entre nous, si quelqu'un a intercepté son message, ne pourra rien comprendre. Donc, cette méthode est disponible sur les machines, même les cellulaires aussi. Donc, ça aussi, c'est une façon de se protéger.
Et est-ce que par façon de se protéger, c'est aussi important de je suis victime d'arnaque, je communique, que ce soit avec ma banque, que ce soit avec le centre antifraude du Canada, que ce soit même avec la police. Est-ce que justement, pour se protéger, c'est important justement de faire passer le mot et de pas rester justement victime dans son coin à attendre que la foudre nous tombe dessus? Parce que forcément, en général, quand on dit rien, ça fait effet boule de neige et un petit grain de sable devient une tempête en fait.
Oui, c'est très, très important de communiquer. De communiquer pourquoi? Si, par exemple, il arriverait que je sois victime, c'est très important de communiquer la police, de communiquer aussi si c'est ma banque, de les informer. Pourquoi? Parce que si ils sont au courant, ils ont les moyens, ils ont la possibilité d'essayer de faire des investigations pour ils ne puissent pas avoir beaucoup de victimes. Parce que si je cache, c'est comme dans la vie courante. Si quelqu'un est venu me voler et j'ai vu cette personne et cette personne vit dans le quartier et que je me taise, c'est-à-dire, ce voleur viendra te voler aussi. Mais si je t'ai informé, dis, hey, Nathalie, fais attention parce que telle personne, il m'a volé. Donc, tu vas commencer à te méfier aussi. Au moins, j'ai freiné, j'ai informé ceux qui pouvaient être victimes. Oui, j'ai été victime, je suis d'accord. Mais au moins que j'aide aussi les autres qui ne sont pas victimes comme moi. Donc, c'est important d'informer les autorités pour que les autorités prennent les précautions et les décisions qu'il faut pour que ce fléau ou bien pour protéger les autres, qu'on ne puisse pas avoir beaucoup de victimes.
Souvent, ce
Merci.
qu'on entend aussi, c'est que les gens, une fois qu'ils sont victimes d'une arnaque, ils ont honte. Ils ont honte parce que ils se sentent bêtes d'être tombés dans le panneau, un peu bêtement en fait, parce qu'au final, comme on le disait un petit peu plus tôt, ce sentiment d'urgence, est-ce qu'il y avait réellement urgence? Vous avez un retour de taxes de 3 000 $, cliquez sur ce lien pour qu'on entame la procédure. Est-ce que c'est réel? Des fois, voilà, les personnes, et souvent d'ailleurs les personnes âgées, parce qu'elles se disent, oh, à mon âge, je me suis fait arnaquer. Et du coup, ils ont tendance à avoir ce sentiment de honte et de se sentir coupable, en fait. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu constater, cette culpabilité qui peut-être empêche justement les gens de dire, bah voilà, écoute, je me suis fait arnaquer et je suis face au mur, je sais pas quoi faire.
Oui, j'ai remarqué ça, mais je recommande aux gens de ne pas se sentir vraiment comme coupable ou bien avoir la honte. Non. Je vais te donner un exemple. Quand je dis que nous sommes, en tant qu'humains, nous sommes vulnérables. Aujourd'hui, comme je sais que je suis vulnérable à une voiture, avant de traverser la route, je dois regarder à gauche, à droite. Est-ce que demain, si peut-être j'étais dans une conversation et que le fait de regarder à gauche m'a échappé et puis je traverse, puis la voiture me cogne, est-ce que je vais me sentir vraiment... Je dois normalement prendre ça comme je me suis trompé, mais le fait que je me suis trompé, c'est pas la fin du monde. Je dois maintenant utiliser cette expérience comme pour bien bâtir le futur. Aujourd'hui, je me suis arnaqué. Ça fait mal, je suis d'accord. Mais utilisez cette expérience, le fait que vous avez été arnaqué. Informez les autres autour de vous et comme ça sera vraiment une force mieux sécuriser le futur. Donc, c'est ce que je peux dire. Faut jamais avoir la honte. Ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Il faut avoir ça dans la tête. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc, vous n'êtes pas la personne, la dernière personne. Non, 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 non. Les arnaques, il y en aura toujours. Mais c'est la façon de nous, faut qu'on essaie de s'armer contre ces arnaques. C'est ce que je peux dire.
Il y a aussi quelque chose maintenant que depuis quelques années qui a fait sa grande apparition. On en parle partout comme étant la nouvelle technologie qui va aider l'humanité à être meilleure ou je ne sais guère. C'est les intelligences artificielles. On en parle beaucoup et il y a des bons côtés. Ça peut aider la science sur plein de choses. Il y a des côtés très sombres aussi de ces intelligences artificielles. Est-ce que tu peux nous en parler, Eric?
Oui, l'intelligence artificielle aujourd'hui, qu'on le veuille pas, c'est une technologie qui est venue pour rester pour longtemps. Donc, et il faut savoir, il y a les avantages et les inconvénients. Mais l'intelligence artificielle n'est pas notre ennemi, non. Il faut qu'on prenne l'intelligence artificielle comme notre compagnon. Et là, je commence maintenant du côté positif. Hein. Il faut qu'on prenne, qu'on essaie de prendre l'intelligence artificielle comme un compagnon qui nous aide à gagner dans le temps. Je donne un exemple. Tu es journaliste et peut-être tu postes, et tu travailles sur les articles. D'abord, avant, pour travailler sur un article, tu dois aller sur le terrain, avoir des rendez-vous. Donc, un article pouvait te prendre peut-être 2 semaines pour le compléter. Et lorsque tu l'as complété, il faut le poster sur Facebook, il faut le poster sur le site web, il faut tout cela. C'est vraiment un grand travail. Un seul article, tu vas voir, tu t'es mobilisé pour 4 semaines, un mois. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, si tu veux travailler sur un article, tu cherches les informations. Tu peux les avoir directement en état dans ton bureau et tu n'as pas besoin d'aller demander les rendez-vous. Peut-être tu as un rendez-vous avec moi. J'ai eu un contretemps. Tu es venu. Tu m'as pas trouvé. Il faut qu'on mette demain à 1 heure. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Maintenant, tu commences à faire la synthèse, chercher ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre. Tu as vu, tu as gagné dans le temps. Maintenant, si tu dois les poster maintenant sur ton site web, il y a des outils intelligence artificielle qui vont le faire pour toi. Donc, en même temps, ils sont en train de poster, tu sois en train de faire autre chose, tu as gagné dans le temps. Ça, c'est le côté positif. Mais il y a le côté aussi négatif. L'intelligence artificielle, au fait, marche comment? Il marche parce que on lui a donné des données. Il y a des données qui ont été envoyées à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle utilise les données qu'il a reçues. Maintenant, si les données sont biaisées, les résultats seront biaisés aussi. Donc ça, c'est un côté négatif de l'intelligence artificielle. À la fin de la journée, même si l'intelligence artificielle nous aide, nous devons utiliser notre jugement en tant qu'humain, peser le pour et le contre avant d'agir. C'est ce que je peux dire pour l'intelligence artificielle.
On a entendu dans un épisode de notre série Nos aînés connectés le témoignage d'une femme qui nous expliquait avoir été confrontée à un appel. Enfin, un membre de sa famille avait été confronté à un appel téléphonique où la personne au bout du fil se faisait passer pour un neveu, un cousin, je ne sais plus. Et puis voilà, une situation d'urgence, un accident de voiture, bref. Mais il s'avère que la personne au bout du fil n'était absolument pas ce cousin ou ce neveu en question et que c'était une intelligence artificielle qui avait copié la voix de la dite personne et que du coup, bah, l'oncle ou le père au bout du fil, lui pensait vraiment avoir un membre de sa famille au téléphone. Est-ce que c'est quelque chose dont on doit se méfier quand on reçoit des appels? Est-ce que c'est quelque chose qui devient monnaie courante? Et pourquoi, en fait, pourquoi d'un coup, on a l'impression que ce truc super génial d'intelligence artificielle peut peut-être se retourner contre nous dans notre vie de tous les jours?
Oui, c'est actuellement c'est un grand problème, ce que nous appelons deepfake. Deepfake, c'est-à-dire on essaie d'imiter ta voix et maintenant on va voir même une image de toi et puis on va mettre ta voix dans l'image qui te ressemble et de voir ce que la personne qui est de l'autre côté, quoique c'est Nathalie qui est en face de moi, alors que c'est une intelligence artificielle. Aujourd'hui, aux États-Unis, beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent parce que ils avaient adopté l'intelligence artificielle pour faire des transactions. Donc, comment ça se passait si, par exemple, aujourd'hui, je dois faire une transaction, je me connecte sur mon compte, je fais la transaction et la banque me demande de vérifier si c'est moi, peut-être que j'ai une vérification à double facteur, je le fais. Ça, c'est côté traditionnel. Mais il y a eu une amélioration d'utiliser maintenant l'intelligence artificielle avec ma voix, par exemple. Est-ce que c'est vous qui voulez faire la transaction? Je dois parler et puis la machine doit reconnaître si c'est ma voix. Et voilà que aujourd'hui, on peut voler ma voix et puis l'utiliser et ma transaction va passer sans problème. Et beaucoup de gens ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a même une vidéo que j'ai vue, c'était avant-hier. Une personne qui travaille dans une compagnie, un employé qui était comptable, a reçu un email de son patron, le PDG, qui lui demandait de faire un transfert à un des clients sur un compte. Donc, l'employé a trouvé ça bizarre, a écrit à son patron, mais elle ne savait pas que l'email de son patron était déjà piraté. Et puis, en envoyant, est-ce que je dois envoyer? Il dit oui. Voilà le link de Zoom, comme ça je vais t'expliquer. Ça dit le PDG, oui. Et l'employé a cliqué sur le link et il a vu. C'est comme si quand je suis entré dans le Zoom, je te vois devant moi, mais c'est pas toi. Et je vois des autres collègues aussi qui ne sont pas les vrais collègues, qui sont des gens utilisés par intelligence artificielle. Ils ont pris des images et maintenant tu me dis oui, Eric. Faut faire le transfert devant tout le monde. Pourtant, j'étais la seule personne qui était humaine.
La seule réelle personne, oui, c'est ça qui
Oui,
est
la
fou.
seule réelle. Oui, donc tu vois comment on fait, c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Donc, cet employé, lorsque elle a vu son patron avec les collègues, donc c'est facile. L'employé va donner l'argent. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais pourtant, elle était la seule réelle personne.
C'est
Donc, c'est
incroyable.
pour te dire que c'est grave, ouais.
C'est incroyable parce que, admettons, voilà, je suis une petite mamie et je reçois un appel de mon petit-fils qui me dit, écoute, Nathalie, mamie, je suis dans une situation compliquée. Forcément, mon cœur de grand-mère va vouloir aider mon petit-fils. Comment je peux être
Voilà.
sûre que je parle à la bonne personne? Admettons que l'histoire, elle est à dormir debout, j'ai eu un accident de voiture. C'est un petit peu l'histoire qu'on a eue avec le témoignage de cette dame, d'ailleurs. Un accident de voiture, mais c'est compliqué, je suis un peu en tort, j'ai pas forcément envie de faire marcher mon assurance, à me mettre dans des soucis. La personne est d'accord pour que je la paye en cash. Est-ce que tu peux m'aider à avoir du cash? Comment on se rend compte? Parce que du coup, il y a quand même cette situation un petit peu d'urgence ou quoi que ce soit. Mais bref, comment on se rend compte quand on est une personne âgée de se dire, bah, en fait, la personne que j'ai au téléphone, c'est pas la bonne. Comment on fait? Est-ce qu'il y a des trucs à mettre en place? Comment on fait?
Oui, comme par exemple, je commence par un exemple. Si nous vivons dans un appartement et puis nous avons une seule clé, la clé pour sortir. D'habitude, ce que les gens font, bon, je peux sortir avant et maintenant je te dis, Nathalie, si tu vas sortir, tu peux laisser la clé à tel endroit. Là, au moins, je le sais quand je vais venir et tu n'es pas à la maison, je sais où trouver la clé. Donc, tu vois, il y a cette attente, comment dirais-je, quelque chose, on s'est entendu sur quelque chose. Maintenant, revenir sur ta question, c'est très important toujours de faire la sensibilisation, l'éducation autour de nous. S'il arriverait que, voilà, pour que je puisse savoir ce que tu es la bonne personne, on peut s'entendre sur quelque chose. On peut dire, OK, par exemple, tu connais mon petit nom, par exemple, je m'appelle, je sais pas, un surnom, quoi. Donc, je vais te demander quel est mon surnom. Le criminel ou bien le hacker ne connaît pas ce surnom, mais l'enfant ou bien, en tout cas, quelqu'un autour de toi qui te fait cher connaît ce surnom, va dire oui, tu es tel. Ah, OK. Là, tu sais que tu parles à la bonne personne. Mais si la personne dit, ah, j'ai oublié, tu soupçonnes, tu dis non, 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 c'est pas la bonne personne. Donc, juste avoir quelque chose sur quoi vous vous entendez, vous deux vous connaissez, ou bien vous trois, ou bien la famille connaissent, si quelque chose arriverait, au moins on sait comment savoir que je ne suis pas devant la bonne personne. Je pense
Mais
que c'est
comment on s'en
seulement.
rend compte? Parce que des fois, c'est vraiment très bien fait. Comme tu dis, là, l'exemple que tu as donné avec cette histoire de lien Zoom. Parce qu'au final, quand c'est juste la voix, bon, des fois, on peut se dire, OK, c'est juste une voix. Là, tu vois la personne en face de toi. Je trouve, alors celle-là, je l'avais jamais entendue, quoi. Pour moi, c'est vraiment incroyable de se dire, non seulement la voix est trafiquée, mais en plus, c'est l'image de la personne. Donc, ça veut dire, là, du jour au lendemain, si j'ai envie d'être, je sais pas, Rihanna, je peux avoir la tête de Rihanna et devenir Rihanna si j'ai envie d'être pendant un Zoom cette personne pour faire croire à n'importe qui quelque chose et peut-être, enfin, je trouve que c'est incroyable, en fait. Comment on fait vraiment pour se dire quand c'est en face à face? Parce que quand on est juste au téléphone, OK, on va mettre un code. Comme je te disais, nous, en préparant cette interview, moi, avec ma famille, j'ai mis en place des trucs. Par exemple, de quelle couleur est mon lit? Sauf ma mère, mon père, personne va savoir de quelle couleur est le lit chez mes parents en France. Mais quand la personne, on l'a en face à face, bah, comme on dit, tant que j'ai pas vu de mes yeux, j'y crois pas. Là, on voit de nos yeux et pourtant, c'est quand même faux. Et non seulement là, dans ton histoire, il y avait le patron, mais il y avait aussi d'autres employés. Et au final, dans cette histoire, il n'y avait qu'un seul vrai humain. C'est incroyable. Comment on se rend compte? Comment on peut, parce qu'on peut pas la toucher, la personne. On peut pas dire, attends, fais voir que je te touche pour voir si t'es réel ou si t'es fictif. Là, au final, ça pourrait être une fausse interview et que depuis tout à l'heure, je suis une intelligence artificielle en face de toi, tu vois.
Oui.
Comment on s'en rend compte quand c'est visuel?
Non, je pense que c'est difficile de savoir, mais moi, ce que je conseillerais, continue à poser beaucoup de questions. Parce que à la fin de la journée, si il arriverait que c'était le vrai PDG ou bien le vrai boss, mais je pense que oui, peut-être il peut s'énerver sur le champ, mais lorsque vous allez lui expliquer après, comprendra pourquoi. Ah, il y avait cette réticence. Parce que c'est difficile aujourd'hui avec ces technologies, ne jamais, jamais avoir confiance à ce qu'on voit. Jamais, jamais, jamais. Et toujours avoir un doute. Et puis maintenant, poser des questions, poser des questions. Et je me dis qu'en posant une, deux, trois questions, il y aura quelque chose qui va montrer que non, c'est pas la bonne personne. Par exemple, vous pouvez autour, au travail, la façon dont vous faites, poser des questions. Une, la personne va répondre. Deuxième question, la personne va répondre. La façon que la personne, parce que cette personne n'était pas préparée à des questions. La personne était préparée à ce que, en voyant, on doit croire. Mais voilà que vous posez des questions. La personne sera embarrassée ou bien sera embrouillée. Là, au moins, ça va cliquer, sonner l'alarme. Vous allez dire, bon, je pense que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Sinon, la recommandation, ne croyez pas à tout ce que vous voyez devant. Non. Surtout quand c'est sur Internet. Non, non, non. À moins que c'est face à face. Mais sur Internet, qui sait? Ça peut être fictif. Non, non. C'est ce que je
Alors,
peux
ce
dire.
serait quoi
Merci.
les meilleures bonnes pratiques selon toi, Eric, à mettre en place, que ce soit par rapport à notre téléphone, que ce soit par rapport aux intelligences artificielles, pour être sûr d'être, entre guillemets, en sécurité, justement, toi qui es un spécialiste de la cybersécurité, ce serait quoi les bonnes pratiques à mettre en place au quotidien, peut-être, pour justement éviter au maximum ces arnaques? Même si en soi, comme tu disais, dans la rue, je te regarde à gauche, je regarde à droite, si j'ai mal regardé parce que je suis au téléphone, je suis en train d'envoyer un message à quelqu'un ou quoi que ce soit, je suis distraite, c'est possible que, bah, malgré que j'ai regardé à gauche ou à droite, il y a un vélo qui passe et que je me prenne le vélo. Mais au moins, j'ai quand même le réflexe de regarder. Donc, il y a, quand bien même la peur n'évite pas le danger, est-ce qu'il y a quand même des bonnes pratiques à mettre en place au quotidien? Et si oui, ce seraient lesquelles, selon toi?
Oui, de la même manière que lorsque nous sommes à la maison, on veut sortir, on doit vérifier que notre porte est condamnée et fermée. De la même manière, lorsque nous utilisons nos machines ou bien nos cellulaires, avoir au moins un bon mot de passe, c'est-à-dire, normalement, je conseille jusqu'à 15 caractères. Peut-être les gens peuvent dire que c'est trop long, on ne peut pas mémoriser. Il y a les gestionnaires de mots de passe aussi. Hein. Il y en a, ça existe, qui peuvent vous aider à garder ses mots de passe. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir un mot de passe. Il faut avoir aussi un deuxième facteur d'authentification. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si par exemple j'ai pu imaginer ou bien j'ai pu voler votre mot de passe, j'aurai accès. C'est de la même manière si je vous ai volé la clé de la porte, je peux entrer dans la maison. Mais si vous avez à l'intérieur ajouté une serrure avec un cadenas, même si j'ai volé la clé, je ne pourrai pas avoir accès à votre maison. De la même manière que si j'ai volé votre mot de passe, parce qu'il y a un deuxième facteur d'authentification, je ne pourrai pas avoir accès à votre compte. Donc, ça, c'est quelque chose tout le monde peut faire et c'est quelque chose qui n'est même pas, qui ne coûte rien, c'est gratuit. De la même manière que vous utilisez le mot de passe, mais ajoutez un deuxième facteur d'authentification. Parce que lorsque le facteur d'authentification, comment ça marche? Lorsque je mets mon nom d'utilisateur et puis mon mot de passe, le système envoie un code sur quoi j'ai utilisé peut-être c'est un cellulaire. Il envoie un code sur mon cellulaire. Je lis le code et je tape dans le système et j'ai accès. Donc, pourquoi c'est sécurisé? Parce que la probabilité que la personne qui a volé le mot de passe vole aussi le cellulaire, elle est faible. Aujourd'hui, les gens qui volent les mots de passe, c'est parce qu'ils sont dans un autre continent ou bien même dans le même pays, mais en ligne. Donc, la personne n'a pas le cellulaire avec lui. Et c'est comme ça, vous allez voir, vous recevez le code, mais vous ne cherchiez pas à entrer dans votre compte. Là, vous savez que quelqu'un a pu savoir votre mot de
A fait une
passe. Là, vous
tentative, ouais.
voyez, a fait une tentative, donc vous êtes protégé. Ça, c'est une recommandation que je fais toujours, tout le monde.
Est-ce qu'il existe, Eric, des formations justement pour que les gens qui ont envie justement d'apprendre à avoir le maximum de clés et d'armes pour pouvoir justement être en sécurité sur Internet, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est des formations qui sont spécialisées pour les jeunes, pour les populations plus aînées? Est-ce que voilà, est-ce que c'est ça, c'est possible? Parce que je pense que plus ça va aller et plus les cyberattaques elles vont être intelligentes entre guillemets. Parce qu'on se rappelle qu'à l'ancienne, on recevait des emails bourrés de fautes avec des trucs, ça se voyait, c'était des copier-coller, c'était tout pourri. On va pas se mentir. On se disait, bon, ça pue l'arnaque. On se rendait très, très vite compte du truc. Maintenant, c'est tellement bien fait. Ils récupèrent des logos. Ils sont même dans la capacité de faire des faux sites. Et c'est pour ça que nous, dans nos aînés connectés, dans les épisodes précédents, on précisait toujours, quitte à répéter, répéter, à faire un peu du bourrage de crâne, mais HTTPS, un cadenas, sinon on va pas passer une commande sur ce site parce que ça peut être potentiellement un danger. Voilà, on sait jamais, en fait. Comme tu dis, tant qu'on le voit comme ça a l'air vrai, mais peut-être qu'en fait, c'est faux. Et même sur Internet, rien n'a l'air réellement vrai tant qu'on n'est pas sûr. Faut toujours avoir un petit doute. Est-ce que voilà, ça existe des formations pour justement mettre un peu la puce à l'oreille aux gens et de leur dire voilà, ça c'est les risques et ça c'est ce qu'il faut mettre en place maintenant pour justement atténuer ces risques.
Oui, effectivement, nous avons une académie à Africa CyberSec. Nous faisons ce genre de formation et ces formations sont personnalisées en fonction des différents types, par exemple les jeunes, les adultes et les aînés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mêmes besoins et il faut savoir utiliser un langage que tout le monde va comprendre. Donc, pour les jeunes, il y a un langage qu'on utilise pour les jeunes qui puissent comprendre mieux et pour les aînés aussi, il y a un langage. Effectivement, nous formons les gens, on leur montre c'est quoi les vulnérabilités parce que lorsque vous connaissez vos vulnérabilités, c'est-à-dire vous connaissez vos faiblesses, c'est comme si vous avez déjà résolu le problème à 50%. Mais là, quelles sont les attaques? Vous êtes vulnérable à quoi? Moi, je sais que je suis un humain, je suis vulnérable à une moto, je suis vulnérable à une voiture. Donc, je dois me protéger. La même manière aussi en ligne, lorsque vous êtes en ligne, vous devez savoir quel genre d'attaque. Par exemple, je suis à la maison, j'utilise le réseau sans fil. Ah, je peux avoir des attaques sur ce réseau. J'utilise un réseau câblé. Il y a des attaques pour ça. Je vais en ligne. Il y a des attaques pour ça. Donc, on essaie de montrer quel genre de différentes attaques. Comment s'y prendre pour se protéger contre ces attaques? Maintenant, s'il y a un risque, disons, il y a un incident ou bien il y a une attaque, comment s'y prendre? Par exemple, aujourd'hui, si vous vivez dans un building et on dit un building de 10 ou 20 niveaux, s'il y a un incendie, vous ne devez pas prendre les ascenseurs, prenez les escaliers. Mais si on n'avait pas un plan d'évacuation en place, s'il y a un incendie, la majorité des gens qui vont se blesser, ce sont les gens qui sont en tête de, parce que on ne sait pas, je fais quoi, qui fait quoi. Alors que si vous
Dans
avez
la
un
panique, en
plan
fait.
dans la panique, voilà. Donc là même, on donne ces genres de tactiques. S'il y a, par exemple, un incident, comment s'y prendre? Est-ce qu'on va être alarmé? Qu'est-ce qu'il faut faire les étapes par étapes pour au moins diminuer les dégâts? En fait, il y a eu un dégât, mais diminué. Sinon, si vous paniquez, les dégâts vont augmenter. Donc, oui, nous faisons ce genre de formation. Et en plus de ça, nous faisons des sensibilisations. Et chaque mois, on fait une session webinaire. Par exemple, cet après-midi, nous allons parler sur l'intelligence artificielle. Donc, on fait toujours ce genre de sensibilisation pendant 1h30. Et on invite les gens, c'est gratuit, les gens viennent, posent des questions, c'est-à-dire on fait la présentation et on donne l'occasion aux gens de poser des questions. Et parce que on sait que En sensibilisant les gens autour de nous, c'est comme ça qu'on peut diminuer aussi ces risques.
Comment justement, avant qu'on se quitte, Eric, les gens peuvent te retrouver justement s'ils sont intéressés par ces webinaires ou par ces formations justement, ou s'ils ont tout simplement des questions à poser, comment on te retrouve, comment on retrouve ta compagnie qui s'appelle, je rappelle, Africa Cybersec.
Oui, nous avons un site web et sur ce site web, il y a dans la partie événements et puis nos sites web, c'est dans les deux langues. Ceux qui sont anglophones, ils peuvent se retrouver aussi. Donc, dans la partie événements, c'est là où il y a la liste de tous les webinaires que nous organisons. Et donc, les gens peuvent s'inscrire à partir de notre site web. Et il y a les dates et tout, et puis les thèmes. Et le site web, c'est www.africacybersec. En un mot, africacybersec.com. Donc, ça, c'est le site web. Et il y a toutes ces informations, les différents services que nous offrons, notamment pour l'académie aussi.
Et avant de clôturer cette entrevue, si tu avais un point justement à rappeler aux auditeurs de Choc FM 105.1, peut-être plus par rapport à nos populations aînées, ce serait quoi le mot de la fin, Eric?
Le mot de la fin, pour conclure, je voudrais rappeler tout le monde que, il n'y a pas de système, il n'y a pas d'infrastructure qui sont sécurisées à 100%. Mais ce que nous faisons, c'est de diminuer le risque. Peut-être que le risque peut tendre vers zéro. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois quand nous allons en ligne, il faut savoir qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de nous observer pour voir si nous faisons une bêtise ou bien une erreur pour nous attaquer. Donc, lorsque nous sommes en ligne, essayons de maximiser toutes les sécurités que nous pouvons, c'est-à-dire vérifier gauche à droite. Bon, c'est comme dans la vie courante quand vous marchez, regardez autour de vous. Ayez sûr que vous êtes bien protégé avant d'aller en ligne. Si vous n'êtes pas bien protégé, il ne faut même pas aller. Donc, c'est ce que je peux dire. Améliorons notre sécurité personnelle avant de s'embarquer dans le public.
Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup justement pour tes conseils super avisés. On sent l'expert en toi clairement avec tous ces conseils. Donc merci beaucoup Eric Ngabonziza d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un réel plaisir de t'avoir avec nous.
Merci Nathalie.
Merci. C'était Nathalie dans, je vous rappelle, ce nouvel épisode de Nos Aînés Connectés, un projet qui est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. À très bientôt Eric. Merci.
Merci.
Et voilà, vous avez donc pu découvrir notre nouvel épisode de Nos Aînés Connectés, avec aujourd'hui comme invité Eric Ngabonziza, le cofondateur de l'entreprise Africa Cybersec. Alors encore une fois, et au risque de me répéter, restez bien aux aguets lorsque vous recevez des messages par courriel qui vous demandent de l'aide, qui vous demandent de l'argent. La même chose si c'est par texto ou alors si vous recevez des appels sur votre téléphone un petit peu bizarre, n'hésitez pas à entrer en contact avec le centre anti-fraude du Canada, avec votre banque ou alors de porter plainte à la police. Ça peut toujours aider certaines personnes si les fraudes sont reportées. Et puis j'en profite également pour vous rappeler de jamais cliquer sur des liens qui vous ont été envoyés par des destinataires inconnus et de surtout pas céder face aux pressions. Et surtout, 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 et je le répète à chaque épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, car des fois, c'est en disant ce qui vous arrive à haute voix et à quelqu'un de confiance qu'on réalise qu'on fait face à une arnaque. Alors, chers auditeurs de Choc FM 105.1, si cette émission elle a pu vous aider à ouvrir les yeux sur ces techniques de fraudeurs 2.0, eh bien, sachez que je suis ravie. Et puis surtout, si vous ou quelqu'un de votre entourage a été victime d'une arnaque en tout genre sur Internet, n'hésitez pas à venir partager votre histoire avec nous. On sera ravis de pouvoir mettre en lumière votre histoire et puis surtout de prendre de vos nouvelles et de nous assurer que tout va bien pour vous aujourd'hui. Merci encore à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Nos Aînés Connectés. Je vous rappelle d'ailleurs que ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés et que nos épisodes sont donc diffusés tous les mardis à 18h. Mais sachez que vous pouvez également nous retrouver sur le site chocfm.ca et également sur toutes les plateformes de streaming comme Spotify, Apple, Amazon ou encore Google. Merci encore à toutes et à tous, c'était Nathalie Salmeron. Bonne fin de journée et à très bientôt pour un nouvel épisode de Nos Aînés Connectés sur les ondes de Choc FM 105.1.
Merci d'avoir suivi le nouvel épisode de Nos Aînés Connectés, un projet rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web chocfm.ca pour retrouver tous les autres épisodes de la série.